L'Académie des sciences, lettres et arts d'Arras a organisé une conférence intitulée « La forêt des Hauts-de-France face aux crises écologiques » et c'était animé par Alexis Ducousseau, chargé de mission à l'INRAE, Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Et la problématique évoquée lors de cette conférence était de comprendre l'importance de nos forêts, sa gestion et surtout le devenir de ces êtres végétaux extrêmement importants à la survie de la planète, mais aussi de l'humanité. Entretien avec Alexis Ducousseau, recueilli à l'issue de la conférence pour en savoir plus. Alexis Ducousseau,
bonjour.
Alors vous êtes chargé de mission à l'INRAE, vous venez de donner une conférence donc assez emblématique sur la forêt des Hauts-de-France face aux crises climatiques, mais pas que, parce que vous avez évoqué pas mal de choses. D'abord, dans une première partie, vous parlez de bois d'industrie, bois d'œuvre, etc. Alors pour les auditrices et auditeurs, vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence entre tous ces bois?
Alors, vous avez le bois énergie qu'on va brûler dans nos chaudières, dans nos cheminées. Après ça, vous avez les bois d'industrie qu'on va utiliser pour, par exemple, l'agglomérer. Et après ça, vous avez les bois d'œuvre qu'on va utiliser pour le mobilier, les poutres, la construction. Voilà les trois grandes catégories de bois en termes d'économie.
On sait que la forêt, elle est un peu mise à mal, un petit peu partout. Il y a pas mal de choses. Notamment, moi, j'avais envie de revenir sur des choses qui sont assez emblématiques dans le monde. Et pas seulement dans les Hauts-de-France, mais aussi ces implantations de forêts qu'on replante, comme les palmeraies, puisque l'huile de palme est assez prégnant dans pas mal de pays et qu'on détruit un petit peu justement ces espèces d'arbres qui étaient à l'origine et qu'on remplace. Alors je ne sais pas si vous avez un sentiment là-dessus.
Si on prend le cas de l'huile de palme, c'est une vraie catastrophe écologique parce qu'on passe de forêts primaires très riches en biodiversité à des monocultures sur des surfaces extrêmement grandes. Donc ça a des effets délétères extrêmement importants sur la fertilité des sols, sur le climat, sur l'érosion, etc. Et ce n'est pas durable parce que on va avoir des sols complètement détruits.
Vous évoquez aussi lors de vos conférences la biodiversité donc, qui est impactée directement par la déforestation, etc. Il y a ceux qui portent des graines, il y a ceux qui en sèment, il y a ceux qui, défèquent les graines. Et c'est important aussi pour tout ça, justement. Et moi, je trouve que c'est un sujet très intéressant.
Alors, j'ai parlé dans cette conférence d'un certain nombre de rôles de la biodiversité et notamment sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers. Alors j'ai surtout parlé sur un point qui est la dispersion des pollens avec les insectes et la dispersion des graines par les animaux. Et peu de gens savent que le renard, que le blaireau, le geai, etc. sont des espèces très très importantes dans le bon fonctionnement des écosystèmes car elles dispersent les graines. Par exemple, un geai va disperser de 10 000 à 5 000 glands par an et produire de 2500 à 5 000 plants de chêne par an. C'est énorme.
Si on revient dans les Hauts-de-France, est-ce que les forêts des Hauts-de-France sont menacées ou est-ce qu'il y a encore un espoir ?
Je ne suis pas pessimiste parce que sinon je ne viendrai pas faire des conférences. J'espère que les forêts vont toujours être là, étant moi-même propriétaire forestier. Mais par contre, il va falloir qu'il y ait des changements très importants pour que leur donner un avenir. Donc remettre des arbres dans le paysage, recréer des corridors écologiques entre toutes les forêts, etc. et restaurer la biodiversité afin que le pollen soit bien dispersé, les graines dispersées, que les prédateurs des graines comme les petits campagnols, etc. soient régulés, les limaces, etc. Donc on a de la restauration écologique à faire pour que nos forêts restent simplement productives et jouent leur rôle économique.
Vous évoquez aussi également la diversité génétique des arbres. Alors ça, c'est plutôt intéressant. C'est un peu scientifique, mais est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu ce que ça signifie pour vous ?
Alors la diversité génétique, donc notre message génétique code pour des caractères. Et ces caractères sont des gènes. Et sur ces gènes, on peut avoir des variations du message génétique, mais on code toujours pour le même caractère. Et ces variations et toute une richesse, et c'est ce qu'on appelle la diversité génétique, qui permettent aux arbres de s'adapter, ou aux plantes, ou aux tous les organismes vivants de s'adapter.
Puis évidemment, on ne peut pas passer à côté du changement climatique, enfin du dérèglement, on va dire, climatique. Les incendies, les pluies énormes, enfin, qui nous impactent tout au long de l'année, hein, de plus en plus. Qu'est-ce que ça va jouer pour nos forêts ?
Le problème, c'est qu'actuellement, les changements climatiques vont dépendre de l'homme, de la bêtise humaine. Ça va dépendre de nos émissions de gaz à effet de serre. Si on continue sur notre lancée, les forêts vont avoir des problèmes énormes. Si on maintient le réchauffement au maximum à 2 degrés en redescendant à 1,5 degré à la fin du siècle, comme le conseillent les scientifiques, nos forêts vont se maintenir. Maintenant, à nous de jouer pour qu'on ne dépasse pas ces 2 degrés. Et au-delà, ça va être vraiment très, très problématique, très difficile.
Et est-ce que vous avez un constat à faire dans les Hauts-de-France, justement, sur l'aménagement du bois qui sert à nos meubles, etc. Est-ce que c'est régulé ? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose à faire ? Est-ce qu'à un moment donné... Moi, je prends l'exemple tout bête. C'est pas dans les meubles, mais voilà, sur Arras, par exemple, tous les Noëls, on met des sapins au pied des réverbères, tout seul. Voilà. Et puis finalement, en fait, ils servent à rien, personne ne les voit. Si, on les voit, mais pensez que c'est utile ?
Les sapins de Noël, c'est une culture complètement à part de la forêt. D'accord. On n'est pas du tout
D'arbres, voilà. Moi, je trouve désolant de trouver des arbres au pied de réverbères qu'on coupe tous les ans et qui finalement finissent par être broyés.
Oui, c'est franchement dommage. Nous, on n'a pas de sapin de Noël.
Est-ce que du coup, les forêts en Hauts-de-France ont une... Allez, on va dire, pour parler de notre région, ont une vie meilleure qu'ailleurs ?
Alors, ce n'est pas la région la plus catastrophique, parce qu'actuellement, 3 à 6 % de la surface forestière dépérit dans les Hauts-de-France, ce qui est beaucoup moins que la Lorraine, les Vosges ou des régions comme ça. Mais c'est quand même très, très inquiétant.
Et puis enfin, pour terminer sur une petite question un peu bonus, et là je suis en train de lire justement, je ne sais pas si vous connaissez l'auteur Richard Powers qui a écrit le livre L'Arbre Monde, où il raconte un petit peu une évolution avec des personnes qui ont une relation avec des arbres, par relation avec leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Je ne sais pas si ça vous parle, parce qu'on dit beaucoup que les arbres, en fait, comptent énormément pour nous.
C'est dans mes prochaines lectures, donc...
je vous le conseille. Hein.
Voilà, donc c'était programmé dans mes prochaines lectures. Après ça, la relation avec l'arbre est extrêmement importante et dépend beaucoup de la culture locale. On a des relations avec l'arbre extrêmement différentes quand on est en Russie, dans les Slaves, ou quand on est en Finlande, ou quand on est en région méditerranéenne. Par exemple, moi, là, j'habite dans le sud-ouest de la France. On n'a pas du tout le même respect dans le sud-ouest de la France de l'arbre que dans la région où il y a quand même un respect beaucoup plus fort. D'accord. Par exemple, dans la région où vous allez dans le nord-est, dans toutes les grandes forêts, vous avez des arbres qui ont des noms, qui ont des vertus. Dans le sud-ouest, non, parce qu'il n'y a pas cette relation avec l'arbre. Donc, si vous voulez, à la fois, la relation avec l'arbre est très importante, mais très culturelle et dépend des régions.
Il y a beaucoup aussi de livres et d'auteurs, j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais qui ont sorti des thèses comme quoi les arbres communiquent entre eux et en même temps qu'ils se guérissaient avec des systèmes d'alerte. par voie, on va dire, intra-sol. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors, scientifiquement, maintenant, il est clairement établi qu'il y a des relations entre les arbres. Après ça, dans ce que l'on lit, il y a beaucoup d'élucubrations et c'est un peu dommage parce que la réalité est déjà tellement complexe et tellement belle qu'il n'y a pas besoin de la changer.
Est-ce que vous avez un arbre préféré ?
Ah oui, pour différentes raisons, le chêne et les chênes. Et je vais vous dire pourquoi, parce que je m'appelle Ducousseau et en occitan, Cousseau, c'est le chêne. Et après ça, j'ai fait toute ma carrière de scientifique sur les chênes. Donc voilà, donc j'ai vraiment un faible pour les chênes.
C'était un entretien avec Alexis Ducousseau, chargé de mission à l'INRAE, Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, pour évoquer une conférence qu'il a donnée sur la thématique « La forêt des Hauts-de-France face aux crises écologiques ».
Juste entre nous.